Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue à cette édition. Conseil des ministres de prise de contact des nouveaux ministres ce matin à Kossiam. Cérémonie de prise de contact. Le Premier ministre dévoile les trois objectifs du gouvernement, à savoir la sécurisation du territoire, la qualité de vie des Bouchnabais et le système de gouvernance. Insécurité au Faso. Le tour du Faso 2022 a été annulé en raison de la situation en sécuritaire. Et puis, situation sociopolitique au Tchad, la communauté économique des États de l'Afrique centrale désigne Félix Tshisekedi comme un facilitateur. Le secteur minier est touché par la crise sécuritaire que traverse le pays. Conséquence, sur les 15 000 en activité, 6 enfermés et plusieurs projets de recherche suspendus à cause de l'inaccessibilité de certaines zones. On en parle avec Elie Kabore, directeur général de Mines Actu Burkina. Il est notre invité. Les 23 ministres avec à leur tête le Premier ministre Apollinaire Kyelem ont effectué ce matin une prise de contact autour du chef de l'État Ibrahim Traoré. Lamine Traoré, vous avez assisté à cette cérémonie de prise de contact. Bonjour.
Bonjour Denis.
Alors que peut-on retenir de cette rencontre?
Écoutez Denis, ce n'est pas un gouvernement de dîner gala, c'est un gouvernement de combat. C'est la première déclaration, sinon ce sont les premiers mots du Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela. Une sobre déclaration à la presse à l'issue de cette prise de contact ici même à la primature. C'est en centre-ville de Ouagadougou. C'est le QG du capitaine Ibrahim Traoré. Ce gouvernement a trois objectifs selon le Premier ministre. La sécurisation du territoire d'Eni, la qualité de vie des Burkinabés et enfin le système de gouvernance. Et pour cela, Maître Kyelem de Tambela demande le soutien et l'accompagnement des Burkinabés. Denis, comme vous l'avez dit, les 23 ministres étaient ici, en tout cas à la primature, lieu qui sert donc de présidence, en tout cas temporaire, de présidence ici, en centre-ville. Et c'était donc une ambiance des sourires sur quelques visages. Nous avons pu échanger avec quelques-uns de ces ministres, notamment Bassolma Bazier. Nous lui avons, on n'a pas pu naturellement arracher des mots, mais Bassolma Bazier demande plutôt des encouragements que des félicitations. Voilà un peu, donc c'est une sobre cérémonie qui a pris fin il y a juste un instant. Et une dernière information certainement qui n'était pas, en tout cas à cette prise de contact des ministres, c'est l'ambassadeur de France qui est en audience actuellement avec le capitaine Ibrahim Traoré. En tout cas, au moment où cette cérémonie de prise de contact prenait fin, nous avons donc aperçu l'ambassadeur de France qui était donc ici à la primature Bénin.
Merci Lamine Traoré. C'est hier que la liste de la nouvelle équipe gouvernementale est tombée. Khaled Ouedraogo nous fait découvrir justement la composition de ce gouvernement fort de 23 membres.
C'est une promesse faite et tenue par le nouveau Premier ministre de la Transition. Sur les 25 portefeuilles ministériels autorisés par la Charte de la Transition, Apollinaire Kyelem a bâti une équipe gouvernementale resserrée de 23 membres. Un gouvernement placé sous le signe de la continuité avec la reconduction de 5 anciens ministres du précédent gouvernement. Bassolma Bazier, Olivia Rwamba, Karamoko Traoré, Robert Kargougou et Aminata Zerbo sont les ministres qui ont été repêchés par le nouveau chef de l'exécutif. En plus de conserver son poste de ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazier est bombardé ministre d'État. Le deuxième ministre d'État de ce gouvernement est le colonel-major Kassoum Koulibaly, qui prend désormais les rênes du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Apollinaire Kyelem a également ratissé large et fait appel à de nouvelles compétences pour porter l'action gouvernementale. Jean-Emmanuel Ouedraogo, précédemment directeur de la RTB Télé, est nommé ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le ministère en charge du Commerce échoit à Donatien Nagalo, figure bien connue du monde des affaires. Fusionné au ministère de l'Action humanitaire, le portefeuille de la Réconciliation nationale est désormais l'affaire de Nandi Soumene Diallo. Le très stratégique ministère de l'économie, des finances et de la prospective a été confié à Boubacar Nakanabo, un inspecteur des impôts. En plus de la suppression du ministère des Affaires religieuses et coutumières, l'autre fait marquant dans la composition de ce gouvernement est la représentativité de l'autre moitié du ciel. En effet, le premier ministre a fait appel à 5 femmes, soit une place de moins pour la gente féminine, comparativement à l'équipe gouvernementale précédente.
Les membres du gouvernement de la transition sont pour la plupart méconnus du grand public. Certains ministres du gouvernement de Albert Ouédraogo sont reconduits. C'est une opportunité pour eux de se racheter, selon Serge Bayala, acteur de la société civile que nous écoutons ici.
Observation, c'est comme tout le monde, c'est des personnes qui ne sont pas assez connues. En dehors des 2 personnes de l'ancien gouvernement, Bassolma et puis la dame des affaires étrangères, ils sont comptables de la gestion de Damiba parce que jamais ils n'ont rejeté les pratiques, en tout cas de façon publique. En tout cas, on n'a pas vu une opposition à la direction que Damiba avait pris, y compris les salaires qu'il avait taillés pour eux, qui font partie des raisons de la chute de Damiba. Certainement, c'est une occasion pour eux de se racheter. Mais le reste des ministres, en dehors de Jean-Emmanuel Ouédraogo de la communication, qui était à la RTB, bon, le reste, c'est des personnes anonymes qui ont certainement les profils ou les compétences que Maître Thielem recherche pour adresser son plan gouvernemental. Donc, à partir de cette liste-là, on ne peut pas déduire qu'ils vont échouer. Ça ne peut pas être notre souhait. Tout ce qu'on espère, c'est qu'ils nous surprennent agréablement.
Casting réussi selon Anselme Somda, chargé de programme au Centre de gouvernance démocratique CGDIM. Il estime toutefois qu'il faudra avoir l'équipe gouvernementale à l'œuvre pour pouvoir apprécier leur capacité à conduire la refondation. Nous l'écoutons également.
Oui, c'est déjà un effort comme promis par le Premier ministre. Il avait dit que, de toute façon, la charte disait 25 au maximum. Mmh. Voilà, ce qui veut dire qu'on peut faire moins. Donc, comme l'a dit le Premier ministre, il a fait moins. Donc, avec 23 membres, c'est déjà un effort. Voilà, et puis, j'ai vu que Bassolma est reconduit. Bon, moi, personnellement, ça ne m'embête pas parce que déjà, je pense qu'il avait quand même fait quelques réformes assez intéressantes qu'il avait engagées. Donc, sa reconduction, pour moi, vise à lui permettre de poursuivre les réformes qu'il a engagées, quoi. Pour moi, c'est dans la même logique, hein. En du moment où ils n'ont pas changé les MPSR, c'est le MPSR qui est toujours au pouvoir. Et voilà, j'imagine que ils ont certainement décidé de garder une certaine posture pour ne pas tout désarticuler, quoi. Selon moi, c'est cela. Ouais, ils ont même gardé aussi les SG du gouvernement. Quant à la refondation, on attend de voir l'équipe gouvernementale aller pour mieux apprécier. En tout cas, du point de vue des profils du casting, voilà, c'est pas mal. Maintenant, il faudrait qu'ils aient les coudées franches pour pouvoir engager les réformes attendues, quoi. Mais je pense qu'avec ces hommes et ces femmes, on peut commencer la refondation. Si on leur permet d'avoir les coudées franches pour engager ça, je pense que c'est des hommes et des femmes qui peuvent engager la refondation.
Autre réaction, Adama Tindrebegodi, colonel, ancien député à l'Assemblée législative de transition, déplore la mise à l'écart des hommes politiques dans le gouvernement de Maître Apollinaire Thielem. Pour lui, un gouvernement d'union nationale était ce qu'il fallait au Burkina Faso dans le contexte sécuritaire et sociopolitique que vit le pays. Nous l'écoutons également.
Je ne vois pas de tête politique à l'intérieur de ce gouvernement. Bon, c'est un gouvernement, mais je trouve qu'on pourrait faire mieux que ça. Voilà, pour moi, je me dis que la situation actuelle là, le commandait qu'on essaie de voir pour ratisser l'âge. J'allais dire un gouvernement un peu tendance de l'âge rassemblement. Parce que composer un gouvernement présentement en mettant les hommes politiques totalement de côté, je trouve que c'est trop osé. Je me dis que, bon, on pourrait faire mieux que ça. Nous sommes dans une situation un peu difficile que de mettre carrément les hommes politiques là de côté. Je ne pense pas que c'est les hommes politiques qui sont à la base de la situation que nous vivons. Voilà, donc pour moi, il fallait appeler toutes les compétences dans tous les secteurs pour faire bouger les lignes.
Voilà des propos recueillis par Ibrahim Niaouné. Hors de nos frontières, crise sociopolitique au Tchad, la communauté économique des États de l'Afrique centrale l'a désigné au thème d'un sommet extraordinaire hier. Félix Tshisekedi, le président de la RDC, comme facilitateur, il aura pour mission de recréer la confiance entre différentes parties au conflit. Le ministre congolais de l'intégration régionale et le président de la commission sont officiellement désignés envoyés spéciaux du facilitateur. La CEAC estime que ce n'est pas le moment d'isoler le Tchad. Elle demande dans ce sens à l'ONU et à l'Union africaine de renforcer leur appui diplomatique, financier, matériel et technique au processus de transition dans le pays. Au Soudan, des milliers de personnes ont manifesté hier contre le coup d'État du général Al-Bouram, survenu il y a un an et qui a fait dérailler la transition démocratique amorcée après la chute d'Omar al-Béchir en 2019. Face à la répression violente et l'incertitude dans laquelle le Soudan nage, un certain fatalisme se fait sentir dans les rangs des manifestants.
Omega Sport.
Le Tour du Faso 2022 a été annulé à cause de la situation sécuritaire. Le secrétaire général du ministère des Sports l'a fait savoir à la Fédération Burkinabé de cyclisme à travers un courrier. Quatre nouveaux qualifiés, Naples, Bruges, le Bayern Munich et le Real Madrid et Manchester City ne sont plus seuls. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, ils ont été rejoints hier soir par Chelsea, le PSG, Benfica et enfin Dortmund. Bernabé Cabré nous en parle.
Denis Ungrana, le Real Madrid est tombé, invaincu depuis le début de la saison. Les Merengues ont perdu pour la première fois sur la pelouse de Leipzig 3-2. Le Real n'a désormais qu'un point d'avance sur Leipzig et dans le même groupe, le Shakhtar Donetsk de Franck Lassina Traoré a fait match nul 1-1 sur la pelouse du Celtic. 57 minutes de jeu pour le footballeur burkinabé avant son remplacement. Troisième au classement, le Shakhtar et Franck comptent 3 points de retard sur Leipzig et ils disposent surtout d'une meilleure différence de but et en cas de victoire face aux Allemands lors de la dernière journée, le Shakhtar va chipper la deuxième place qualificative pour les huitièmes de finale. Le Benfica Lisbonne a fait très mal à la Juve en s'imposant 4-3. Cette victoire qualifie le club portugais pour les huitièmes et élimine la Juventus de Turin. Et dans le même temps, le Paris Saint-Germain a composté son billet en laminant le Maccabi Haïfa d'Israël 7-2. Messi a signé un doublé, plus deux passes décisives. Mbappé a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Neymar a aussi participé au festival avec une réalisation. Le choc entre Manchester City et Dortmund a accouché d'un nul 0-0. City a sécurisé sa première place et Dortmund son ticket pour les huitièmes de finale. Et vainqueur de Salzbourg 2-1, Chelsea a permis au Milan AC de rester en vie. Le Milan a dans le même temps éclaté le Dynamo Zagreb 4-0. Le Milan a un point de plus que Salzbourg avant la dernière journée qui verra les deux équipes s'affronter.
Et puis la cinquième journée prend fin ce soir avec un certain Barça-Bayern.
Oui, le FC Barcelone n'a plus son destin en main après son match nul 3 buts partout contre l'Inter Milan, mais doit s'efforcer de remporter ses deux derniers matchs de groupe, à commencer par celui contre le Bayern de Munich ce soir à 19h, tout en espérant que d'autres résultats lui seront favorables. C'est simple pour le Barça, pour espérer se qualifier, le Barça doit battre le Bayern de Munich ce soir, tout en espérant que l'Inter Milan ne gagne pas face au Viktoria Plzeň. Autrement dit, si l'Inter bat les Tchèques ce soir à 16h45, le Barça sera déjà éliminé avant même le coup d'envoi de son match contre le Bayern qui est prévu à 19h. L'Olympique de Marseille d'Issac Aboré joue sur la pelouse de Francfort et le Bayern Leverkusen d'Edmond Tapsoba, presque éliminé, sera reçu par l'Atlético Madrid.
La revue de presse.
Fin d'attente pour les Burkinabés. 4 jours après la nomination de Maître Apollinaire Kylem comme Premier ministre, la composition du gouvernement a été dévoilée. C'était dans la nuit d'hier. Une composition qui fait la une des quotidiens de jour, ainsi que l'attaque de la base du 14e régiment interarmé de Djibo. La revue de presse porte la griffe de Valérie Guéret.
L'album photo des membres du gouvernement s'affiche à la une des manchettes du jour. Le journal Le Pays le titrait à sa une « Gouvernement Kylem 1 », un léger dégraissage pour pouvoir aller vite au charbon. au charbon, cher ministre, s'exclame aujourd'hui au Faso en titre. Pour ce canard, ils sont au total 23 ministres à être appelés au combat pour dépêtrer le Burkina de ses problèmes. Cela dit, resserrer c'est bien, mais on ne se lassera jamais de le dire. Avoir des personnes qu'il faut à la place qu'il faut est encore mieux, opine notre confrère du journal Le Pays. Fait marquant dans ce nouveau gouvernement burkinabé pour les quotidiens du jour est la montée en grade du général Bassolma. Pour l'Obs, non seulement le général, comme certains de ses camarades, syndicaliste le surnommé, conserve son portefeuille de la fonction publique, mais il est, pour ainsi dire, bombardé ministre d'État, deuxième dans l'ordre protocolaire du gouvernement. Une petite revue de cette troupe montre que l'ex-ministre de la fonction publique monte en grade et devient ministre d'État comme son nouveau collègue de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly, renchérit aujourd'hui au Faso. Pendant qu'à Ouagadougou, les tractations se poursuivaient pour la formation du gouvernement du premier ministre Kylem de Tambela, sur le terrain, loin de la capitale, plus précisément à Djibo, le 24 octobre dernier, les terroristes étaient à l'œuvre pour traduire en actes ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire détruire et tuer tout sur leur passage, fait remarquer le journal Le Quotidien. À l'analyse de notre confrère de l'Express du Faso, il y a un gros et sérieux travail à faire à Djibo. C'est là-bas qu'on a le plus perdu de soldats et de populations civiles. C'est aussi là-bas qu'ont été enregistrés les plus grands dégâts matériels, militaires ou civils. Pourquoi donc Djibo ? S'interroge le journal Bobolais. La réponse à cette question est sans doute difficile à trouver dans l'immédiat.
L'invité du jour. L'invité du jour.
La crise sécuritaire qui traverse le Burkina Faso impacte le secteur minier. Conséquence sur les 15 mines en activité, 6 enfermées et plusieurs projets de recherche suspendus à cause de l'inaccessibilité de certaines zones. Notre invité du jour n'est autre que le directeur général de Mines Actu Burkina, Élie Kabore. Il répond aux questions de Valérie Guéret.
Kabore, bonjour.
Oh, bonjour.
De façon générale, quelle est la situation de l'industrie minière au Burkina ?
Le secteur minier occupe une place de choix dans l'économie nationale. Nous avons environ 15 mines en exploitation. Malheureusement, depuis le début de l'année, au moins 6 mines sont fermées. Quand je parle de mines, c'est des projets miniers ayant des permis à part et des numéros IFU et des registres de commerce à part. Donc, Yuga, Nitiana, Wari ont suspendu leurs activités du mois seulement parce que Yuga a fini de ramasser son minerai et Nitiana partait en souterrain et les deux sociétés comptaient sur le minerai de Wari qui a malheureusement connu une attaque le 30 janvier 2022. Donc l'un dans l'autre, on a plus de 2000 emplois qui sont aujourd'hui perdus et avec un manque à gagner de plus de 20 milliards pour le budget de l'État, sans compter bien sûr le fonds minier de développement, la patente, la taxe superficielle qui sont directement reversés au niveau des collectivités. Donc on a un secteur vraiment en crise et depuis un certain temps, les statistiques montrent que la production d'or est en baisse continue. Entre janvier et août 2022, on a enregistré une baisse de près de 13% de la production par rapport à la même période l'année passée.
Il y avait des projets en cours en termes de recherche. Qu'en est-il exactement ?
L'insécurité aussi a beaucoup impacté sur la recherche. Vous savez très bien que l'avenir d'un pays minier se trouve dans la recherche. Au-dessus de Kaya, on ne peut plus mener la moindre activité. Au-dessus du Congo, on ne peut plus mener la moindre activité. Alors qu'on avait un gros paquet de sociétés en recherche dans ces zones-là. Donc, disons, la diminution de la recherche va beaucoup impacter sur l'avenir de ce secteur parce qu'il n'y aura pas de nouveaux permis en tant que tel.
Est-ce que cette situation n'est pas de nature à décourager d'éventuels investisseurs ?
L'aspect sécuritaire décourage beaucoup d'investisseurs. Déjà, avec les investissements qu'ils ont eu à faire, par exemple au niveau de la recherche et au niveau même des permis qui sont fermés, c'est quand même une immobilisation qui ne dit pas son nom. Donc, c'est de l'argent qui est immobilisé, qui ne travaille pas. Quand même, un manque à gagner pour ces sociétés-là qui étaient venues quand même se faire de l'argent. Donc, c'est une situation qui aura un impact à long terme sur le développement des activités au niveau du Burkina, l'arrivée des investisseurs, l'augmentation des investissements directs étrangers, bien sûr, les questions de balance commerciale, parce que moins d'argent va rentrer au niveau du pays. Ça ne sera vraiment pas évident que l'on puisse assurer un avenir radieux pour ce secteur-là.
Justement, en parlant d'accompagnement, est-ce qu'il y a des sociétés minières qui bénéficient d'un accompagnement de la part de l'État, surtout sur le plan sécuritaire ?
Non, je pense que c'est au cas par cas. Chacun demande l'escorte et puis on les escorte. Mais je ne pense pas que c'est ce que les sociétés, vraiment les sociétés s'attendaient à ça. on peut mieux faire. On peut mieux faire parce qu'il y a des sociétés qui ont des retards de livraison, parce que les escortes ne sont pas régulières, elles ne sont pas à la limite comme elles le voulaient. C'est vrai qu'il y a des contraintes, parce que c'est le même matériel, ce sont les mêmes hommes qu'on utilise ailleurs pour la sécurisation du territoire d'une manière générale. Donc aujourd'hui, quand même, il y a des sociétés, quand vous prenez celles qui sont dans les zones rouges, une société comme Isakhan peine vraiment à avoir souvent des ravitaillements parce qu'elle doit traverser toute la zone et se retrouver au cœur même des hostilités. Donc c'est une société qui est obligée d'investir d'énormes sommes d'argent pour la sécurisation des convois, la réparation des routes qu'elle emprunte, bien sûr, de transporter son personnel.
Comment redynamiser ce secteur?
La redynamisation de ce secteur-là passe, comme je l'ai dit, par le dialogue et la réaffirmation du rôle de l'État en tant que, le leadership de l'État en tant qu'entité qui doit coordonner et conduire ce dialogue-là. Donc le mieux serait de vraiment mettre l'accent non seulement sur la sécurisation du pays d'une manière générale, mais aussi voir dans quelle mesure on peut accompagner ces sociétés-là sur le plan de la sécurisation de leurs convois, la sécurisation des sites, et la sécurisation du personnel, et aussi, pourquoi pas envisager un dialogue qui va permettre aussi, au cas par cas, comment accompagner sur le plan fiscal certaines entreprises, comment les aider aussi à régler les questions environnementales, parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a des sociétés qui ont fini de travailler, qui ont abandonné des sites et qui ont besoin quand même de réhabilitation. Comment il faut les accompagner pour la réhabilitation? Comment il faut aussi accompagner ces sociétés pour qu'elles continuent les interventions au niveau communautaire? Comment accompagner les collectivités qui reçoivent les fonds miniers pour qu'elles continuent à faire des investissements? Peut-être même que ces investissements peuvent permettre aussi de résorber le chômage dans ces localités-là et peut-être décourager des jeunes qui sont candidats au niveau de ces groupes armés-là. Donc c'est une réflexion d'ensemble qu'il faut mener en mettant ce secteur-là au cœur de la réflexion, parce que c'est un secteur qui est très transversal. Aujourd'hui, il génère beaucoup de cash. C'est ce secteur-là qui nous permet d'avoir rapidement de l'argent. Parce que vous savez que dès la pesée, les royalties sont facturées, les fonds miniers sont facturés, et c'est de l'argent qu'on paye cash. Donc, il faut accompagner ce secteur-là aujourd'hui pour pouvoir tirer le maximum. Non, à côté des exploitants, il y a les sous-traitants. Il y a plusieurs sous-traitants aujourd'hui qui ont des difficultés pour approvisionner ces sites-là. Il y a eu une attaque à la sortie de FADA qui a concerné un sous-traitant qui de la mine de Bungu. Bon, il serait difficile, par exemple, pour ce sous-traitant-là de pouvoir fournir encore des biens et des services à la mine sans vraiment une vraie sécurisation. Actuellement, la sécurité est au cœur de la crise que connaît ce secteur. C'est vraiment le côté sécuritaire qu'il faut travailler à résoudre.
Élie Kabouri, je vous remercie.
Ok, c'est moi qui vous remercie.
Notre invité à l'instant, Élie Kabouri, il est le directeur général de Mine Actu Burkina. Fidèle Compaori à la technique, Denis Zumbrana, la présentation ici donc sur IFM cette édition. Et ce proverbe Bissa pour vous souhaiter une excellente journée. La femme mariée à un paresseux n'a pas de mari. Excellente journée.
Radio Omega, l'info en direct.